évolue sur moi pour être l'outil par l'intermédiaire duquel il va s'adresser à son peuple de l'Église baptiste française l'Oratoire et en ce temps de confinement généralisé. Je voudrais également remercier l'ange du Seigneur, mon frère Germain, mon frère biologique, le révérend pasteur Sergo Auguste, et qui s'est mis à l'écoute de la voix de Dieu pour que je sois ce matin le prédicateur virtuel en ce dimanche 17 mai 2020. Également, je tiens à remercier et saluer tous les membres de cette assemblée séculaire qui sont installés chez eux afin de pouvoir écouter pour la première fois par mes lèvres ce que le Saint-Esprit a à leur communiquer. Je salue les membres de cette Église. Enfin, je salue tous ceux-là qui sont branchés Power 102 dans la ville de Snellville, dans l'État de Georgia, et le PDG, M. Chenet Nurette, qui a mis sa plateforme non seulement à ma disposition, mais également à disposition de l'Église baptiste française de l'Oratoire à Montréal, Canada. Enfin, je salue les membres de l'Église baptiste de l'habitation HAP en Haïti qui sont branchés à travers le monde, au Brésil, à Chili, et en Argentine, en Équateur, en France, aux États-Unis, au Canada. Alors, ce matin, je vais vous dire quelque chose. Dimanche dernier, c'est moi qui aurais dû être le porte-parole. Mon frère et moi, eh bien, on s'était entendu pour que ce soit un message de la famille, puisque dimanche dernier était la fête des mères. Mais pour aujourd'hui, souffrez, permettez que je vous dise que mon message ne aura pour sujet un autre que le sujet sur la famille. Pourquoi? Parce que pour moi-même, puisque dimanche est passé, c'est un autre dimanche, je pensais que je pouvais prêcher un autre message. Donc, permettez que je ne vous parle pas sur la famille, mais c'est un sujet d'actualité que Dieu m'a confié et je vais vous le dire. L'inquiétude, l'arme silencieuse qui tue les chrétiens. L'inquiétude, l'arme silencieuse qui tue les chrétiens. Le texte se trouve dans Matthieu 6, versets 25 à verset 34. Je vous lis. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'inquiétude, l'arme silencieuse qui tue les chrétiens. L'inquiétude constitue l'un des problèmes les plus récurrents dans la vie des croyants. La majorité des chrétiens, la majorité des serviteurs et des servantes de Dieu, pour ne pas dire la totalité, eut un jour à faire face à ce dilemme dans leur vie de croyant. Même celui qui porte le nom, le surnom de père de la foi, Abraham, l'ami fidèle de Dieu, il avait un jour dans sa vie fait face à l'inquiétude. Cet épisode nous est rapporté dans Genèse 2, 15 et les versets 2 et 3. Quand celui-ci remarqua que des jours s'écoulèrent, des années passèrent et que la promesse qui lui a été faite tarde à s'accomplir, Abraham déclara, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Dites-vous bien, mes frères et sœurs, ces paroles sont le cri d'un homme inquiet, un homme désespéré et qui était nonagénaire. Abraham ne voyait pas clair dans les promesses accompagnant sa vocation. En effet, quand vous êtes en situation troublée et mouvementée et que vous commencez à avoir de la préoccupation, je veux que vous sachiez, mes frères et sœurs bien-aimés, que l'inquiétude frappe déjà à votre porte. L'inquiétude, quand elle vient, elle a tendance à vous faire oublier ce que Dieu a déjà fait dans le passé. C'est à juste titre ce matin que je vous invite à une analyse de votre situation 20 années avant 2020, ou du moins, si vous voulez, 30 années avant 2020. Où étiez-vous? Où en êtes-vous aujourd'hui? Le chrétien, dans son pèlerinage sur la terre, doit faire fi de l'inquiétude. Le chrétien, dans son pèlerinage sur la terre, doit faire fi de l'inquiétude. Pourquoi vous demandez-vous que le chrétien doit faire fi de l'inquiétude? Eh bien, nous découvrirons dans ce texte quatre raisons pour lesquelles le chrétien ne doit pas s'inquiéter. Le chrétien ne doit pas s'inquiéter, premièrement, parce que Dieu se penche sur tous les besoins de ses enfants, selon les versets 25 et 26 du texte. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Parfois, face à certaines difficultés, on se plaint que Dieu nous délaisse. Pourtant, si nous étions abandonnés et délaissés, la situation serait pire. Pour la plupart des croyants, quand survient la tentation ou les tracas, ils sont déjà prêts à plier bagages, à courber les chines. Tel ne devrait pas être le cas, mes frères et sœurs bien-aimés. Matthieu 6 fait partie de ce que les théologiens appellent le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne englobe les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Certains théologiens le considèrent, à savoir le sermon sur la montagne, comme le discours inaugural du ministère de Jésus-Christ. De plus, le sermon sur la montagne est le plus long discours oral du Nouveau Testament. L'éminent théologien anglais John Stott a déclaré « Le sermon sur la montagne est probablement l'enseignement le plus connu de Jésus. Bien qu'il s'agisse, on en conviendra du moins compris et assurément du moins obéi. » Fin de citation. En effet, l'auditoire du temps de Jésus semblait avoir de la préoccupation pour le manger et le boire. De plus, à cette époque, les pièces d'étoffe n'étaient pas encore répandues à cause du problème de l'industrie du textile qui n'existait pas encore. Donc, en ce temps-là, se nourrir et se vêtir constituait un problème majeur pour les gens, d'où naissait leur inquiétude pour la nourriture et le vêtement. Et à Jésus de leur dire que se donner la peine pour ces choses, c'est ne pas comprendre le souffle que Dieu a mis en eux. Il est vrai que de nos jours, dans certaines sociétés, il n'existe pas ce type de problème. Mais il n'en demeure pas moins vrai que dans ces pays, il y a d'autres problèmes. Dans les pays qu'on appelle quart monde, pays tiers monde, des gens meurent de faim. Et selon un rapport publié par la FAO, Fonds mondial pour l'agriculture et l'alimentation, 8500 enfants de moins de 5 ans meurent de faim tous les jours. De plus, 12,5% de la population mondiale, soit un total de 842 millions, souffrent de malnutrition. Ces rapports ont été publiés en 2013. Alors, l'insécurité alimentaire qui règne aujourd'hui ne saurait en aucune façon se comparer à ce qu'il y avait du temps de Jésus. Mais déjà au premier siècle, le Seigneur Jésus mettait ses disciples en garde contre l'inquiétude pour le manger et le boire. Mes frères et sœurs, Dieu s'occupe de vous dans les moindres détails de la vie quotidienne. Il est présent, il est là, il suit avec attention tous les détails de votre vie. Il suit avec attention tout ce qui se passe dans votre environnement. Vous pouvez lui faire confiance. Oui, vous pouvez lui faire confiance et lui faire part de tous vos soucis. Si au Canada, en France, en Angleterre, aux États-Unis, les gens n'ont pas de problème pour la nourriture, mais ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres inquiétudes, ils ont des problèmes qui les bouleversent, qui les tracassent. Par exemple, des maladies cardiovasculaires, divorce dans le couple, parfois problème de compréhension dans la famille, la mort de notre cher, un enfant qui refuse de continuer ses études supérieures après les études classiques, un enfant qui se livre, un mari qui se livre à l'alcool, à la drogue, un autre, c'est un enfant qui est en prison. Les problèmes sont nombreux, ils sont légion, multiformes et multidimensionnels. Mais Jésus vous dit ce matin, ne vous inquiétez de rien. Quel que soit le problème qui vous tracasse, qui vous bouleverse, ne vous laissez pas submerger et imbiber par l'inquiétude. Confiez-vous en l'Éternel, car il peut pourvoir à toutes vos préoccupations. L'apôtre Paul, malgré qu'il était en prison à cause de la prédication de la parole de Dieu, il ne se laissa pas emporter par l'inquiétude. Au contraire, il a écrit à l'église de Philippe ses paroles dans le 4e chapitre de Philippiens et le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Jésus, pour corroborer ce qu'il a dit au verset 25 de Matthieu 6, pour nous aider à bien comprendre cet enseignement qui se dégage dans ce texte, il a pris une illustration que tout le monde peut bien comprendre. Les oiseaux du ciel, vous qui venez d'Haïti, vous connaissez cet oiseau que nous appelons Madame Sarah. Eh bien, à chaque fois qu'il y aura moisson, récolte dans un endroit, les Madame Sarah viennent en foule pour placer leur nid afin de pouvoir trouver de quoi se nourrir et nourrir leurs petits. Et à Jésus d'ajouter, vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu que les oiseaux. Si Dieu prend soin des oiseaux, il prendra soin aussi de vous. Et je comprends l'auteur du cantique 133 français dans ce verset où il déclare « Ne crains donc pas le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas, ta main dans sa main, Dieu prendra soin de toi. » Mes frères et sœurs bien-aimés, le chrétien dans son pèlerinage sur la terre doit faire fi, disais-je, de l'inquiétude. Pourquoi? Parce que Dieu se penche sur tous les besoins de ses enfants. La deuxième raison que nous découvrirons dans ce texte est celle-ci. Vous ne devez pas vous inquiéter parce que l'inquiétude ne peut rien changer dans nos problèmes. Les versets 27 à 31 nous dit, eh bien, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? John Nelson Darby, eh bien, et dans la version de John Nelson Darby dit, et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée, un centimètre à sa taille? De nos jours, dans la presse du monde entier, on ne parle que de COVID-19. Presse parlée, écrite, télévisée, quant aux médias en ligne, n'en parlons pas. Le focus est mis sur cette pandémie soudaine qui a éclaté à Wuhan en Chine et qui a envahi le monde entier. Tout le monde a peur, tout le monde s'inquiète pour qu'il ne soit touché par cette maladie. Eh bien, on prévoit déjà que cette pandémie sera la maladie du siècle, tout comme le sida était le mal du 20e siècle. Mais savez-vous, mes frères et sœurs bien-aimés, que Dieu garde encore le contrôle de l'univers. Dieu garde encore le contrôle de tout ce qui se passe. Nous nous inquiétons pour nous et nos proches, nos parents. Mais que pouvons-nous faire réellement? Rien. Seulement, nous pouvons suivre les conseils des autorités constituées. Malgré tout, il y a des gens, il y a des frères qui sont partis, qui sont touchés, qui sont partis pour l'au-delà. En dépit des mesures préventives observées pour éviter qu'ils soient atteints. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Aujourd'hui, on craint la mort, on a peur de mourir, mais il y a un jour fixé par Dieu pour que nous quittions cette terre. Est-ce que la peur de la mort peut vous épargner d'aller dans l'au-delà? Non. Mais pourquoi vous inquiéter? Pourquoi vous inquiéter à cause de cette pandémie? Dans le psaume qu'on vient de lire dans le culte, le psaume 91 nous dit que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous ne serons pas atteints. Mes frères et sœurs bien-aimés, il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils sont mariés depuis plusieurs années. Ils n'ont pas encore d'enfants. Ils n'ont pas encore de progéniture. Mais que pouvez-vous faire dans cette situation? Jésus vous dit ce matin à celles qui sont mariées et qui n'ont pas encore d'enfants, ne vous inquiétez de rien. Car avant vous, il y avait d'autres femmes de Dieu. Il y avait d'autres servantes de Dieu ferventes et pieuses, qui avaient ces mêmes problèmes, qui avaient beaucoup souffert. Mais elles ont été réconfortées. La Bible nous parle de Sarah, la femme du patriarche Abraham. À 90 ans, elle ne pouvait plus espérer et avoir un enfant parce que Sarah n'avait plus de menstruation. Mais vous savez que Dieu a donné un garçon à Sarah, Isaac. Savez-vous que le seul patriarche à être monogame, c'est Isaac. La Bible nous parle également de Anne. Comment Pénina la mortifiait par des paroles blessantes. Eh bien, Anne, vous savez qu'elle est la mère de Samuel. Et qui est Samuel? Le seul prophète et juge qu'Israël a connu parmi tous les juges. Et Samuel a eu un fructueux ministère. C'était un enfant pour lequel sa maman a passé beaucoup de temps de la prière. Mais oui, Dieu ce matin il vous voit, il vous connaît. On sait, la Bible nous parle comme troisième exemple de Rachel. Rachel, la femme que Jacob aimait. Rachel ne pouvait plus enfanter. Mais le premier fils de Rachel est celui par l'intermédiaire duquel Dieu allait préserver la race d'Israël. Joseph, c'est lui qui a délivré Israël de la faim en son temps. Et par Joseph, l'ascendance du Messie a été conservée. Mes frères et sœurs, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui, Samuel a eu également l'opportunité de joindre deux rois, David, Saül et David. Mais pourquoi vous inquiétez? Dieu a un enfant pour vous. Pourquoi vous inquiétez? Écoutez ce que dit la Bible dans Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Toutes les femmes que je viens de vous parler, Sarah, Rachel, Anne, elles ont reçu la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, on peut parler de ces femmes. L'un des prophètes les plus puissants que le monde a connu était un jour plongé dans une grande et profonde inquiétude. Cet homme qui avait tellement une bonne relation avec Dieu avait prié pour qu'il ne plût point en Israël. Et cela était arrivé. Il ne tomba point de pluie durant 42 mois, ou si vous voulez, 3 ans et demi. Cependant, après cette œuvre extraordinaire, il était tombé dans la dépression. Il était inquiet pour sa vie. Lui qui avait fait exécuter les 850 prophètes de la reine Jézabel, sa tête avait été mise à prix. Et selon 1 Roi 19, verset 3, la Bible nous dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie demanda la mort. L'inquiétude avait envahi Élie. Qu'est-ce que nous voulons dire par cela? Eh bien, malgré notre niveau de relation avec Dieu, nous ne sommes pas immunisés par les tracas et les problèmes de la vie. Mais quand nous faisons face à ces problèmes, nous devons savoir que le souci que l'on se donne ne peut et ne pourra rien résoudre dans nos problèmes. Donc, quand nous sommes en souci pour les biens de la terre, nous devons nous en remettre au Seigneur Jésus-Christ. Nos problèmes, il les connaît. Ne vous laissez pas dominer par l'inquiétude, frères et sœurs bien-aimés. Priez au contraire le Seigneur afin qu'il vous aide à traverser ce moment difficile. Le texte nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un centimètre, une année, un mois à sa vie? Personne. Personne ne peut ajouter un centimètre à sa hauteur. Personne ne peut ajouter un mois ou une année à la durée de sa vie. Mais si vous ne le pouvez pas, pourquoi vous inquiéter? Le Seigneur enchaîne pour vous de poser cette question. Eh bien, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du manger et du boire? Dieu ne tolère pas, il ne digère pas les chrétiens qui se plaignent. Les chrétiens qui se mettent en peine pour n'importe quoi, Dieu ne les tolère pas. Il est temps que vous soyez matures et que vous cessiez ces plaintes, frères et sœurs bien-aimés. Il est temps que vous cessiez de vous plaindre. Je disais que Matthieu 6, verset 26 est une illustration pour expliquer le verset 25. Il en est de même du verset 28. C'est une autre illustration que Jésus a utilisée. Jésus a mis aux prises les herbes des champs et le puissant roi Salomon. Comment peut-on comparer une personne à des herbes, à des fleurs? La leçon est simple, elle est claire. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous tracassez pas pour votre vie. Et Proverbe 12, verset 25, nous lisons ces paroles. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une parole, une bonne parole le réjouit. Ésaïe 41, verset 10, Nous lisons ces paroles. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne vous inquiétez de rien, frères et sœurs. Ne vous tracassez pas, car Dieu est avec vous. Il y a une troisième raison pour laquelle le chrétien ne doit pas s'inquiéter, parce que l'inquiétude rend le croyant semblable aux païens, selon le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Quand on se plaint à cause des difficultés rencontrées dans la vie, on ressemble aux païens. Car Jésus n'avait pas promis à ses disciples une vie facile, tout comme aujourd'hui. Il ne promet pas une vie facile à vous qui êtes membres d'une église. Non, tous ceux et toutes celles qui répondent à l'appel du maître doivent s'armer de force et de courage afin de pouvoir mener la lutte. Si dans notre vie nous faisons face à des difficultés, sachez que vous êtes dans le plan de Dieu. Si vous n'êtes pas l'auteur de ces problèmes, bien sûr. Face à l'inquiétude, le serviteur ou la servante de Dieu doit répondre par la foi. Car Saint Paul a déclaré dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Celui qui ne croit pas en Jésus ne peut pas marcher par la foi. C'est un concept qui lui est étrange. C'est pourquoi Jésus a déclaré « Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » D'où nous trouvons dans la Bible 5 caractéristiques des païens. 1. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées, selon Éphésiens 4, verset 17. Nous lisons, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 2. Les païens n'ont aucun droit de citer. Regardons encore ce que dit Paul dans Éphésiens 2, verset 11 à 13. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Toi, les païens vivent dans le mensonge, selon Éphésiens 4, verset 25. 4. Les païens se mettent en colère facile, Éphésiens 4, verset 26. 5. Les païens n'ont aucun contrôle dans leur langage, selon Éphésiens 4, verset 29. Lorsque Jésus disait « Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire le manger, le boire et les choses périssables », il savait de quoi il parlait, car il connaît bien les caractéristiques des païens. Il sait que la nature humaine est une nature qui peut nous permettre de poser n'importe quelle mauvaise action. Mais il sait également que nous devons nous confier en lui. C'est pourquoi celui ou celle qui se livre à de telles choses, comme font les païens, même si elle fait partie d'une église locale, le Seigneur le considère comme un païen. Vous n'êtes pas sans savoir, mes frères et sœurs bien-aimés, que nos églises aujourd'hui regorgent de païens, de faux frères, de faux sœurs. Et ces gens, quand ils traversent des difficultés, quand ils font face à des vents contraires, ils sont faciles à identifier. Oui, ils sont faciles à identifier. Quand ils pensent avec une belle offrande, ils peuvent trouver solution à leurs problèmes. Ne les ressemblez pas à vous-même. Au contraire, vous devez serrer les rangs. Parfois, par manque de foi, à cause de nos inquiétudes, nous surestimons la force de l'adversaire. On se rappelle l'histoire de ce serviteur d'Élisée dans 2 Rois 6, verset 15. Lorsque l'armée syrienne avait envahi la Samarie pour s'emparer d'Élisée, et bien le serviteur a déclaré, « Maître, que ferons-nous devant cette multitude nombreuse quand il a vu des chevaux et des chars ?» Mais Élisée a prié le Seigneur pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur. Et Élisée de dire, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mes frères et sœurs, quand vous vous plaignez, quand vous faites ce qui n'est pas bien, quand vous vous laissez emporter par l'inquiétude. Vous vivez à l'instar des païens. Mais Dieu veut que vous lui ressembliez. Dieu veut que vous abandonniez la voie qui conduit à l'inquiétude. Car, comme je disais, l'inquiétude peut engendrer des maladies. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous disais de ne pas vous inquiéter. Je vous disais que le chrétien doit faire fi de l'inquiétude. Enfin, parce que Dieu promet qu'il pourvoira aux besoins de celui qui fait de sa parole la priorité de sa vie. Au verset 33, nous lisons « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Après avoir combattu avec véhémence l'idée pour le chrétien de s'inquiéter pour les choses périssables, Jésus maintenant invite tous les croyants à identifier la bonne priorité dans leur vie. Dans cette section de l'évangile de Matthieu, qui commence au verset 19, pour s'achever au verset 34, le mot « inquiétude » apparaît une fois au verset 27. Le verbe « inquiéter » se trouve répété trois fois à la forme négative, verset 25, verset 31 et verset 34. Et une fois, le verbe se trouve à l'infinitif présent. Donc, si l'emphase est mise sur ce terme, c'est qu'il est important pour le croyant de prêter attention. Ce à quoi Dieu s'attend, que ses enfants aspirent, c'est une vie centrée sur le Christ Jésus. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, il a écrit, il a souligné l'importance d'une vie centrée sur Jésus, au lieu de se livrer aux choses passagères. Voilà ce que Paul avait écrit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Fin de citation. Bien-aimés, frères et sœurs, l'heure est venue, enfin, pour que nous cessions d'adresser à Dieu seulement des pétitions comme prières. Il est temps pour que nous lui offrions vraiment nos cœurs. Il est temps pour que nous le dédions totalement nos vies. Parfois et très souvent dans nos pétitions, nous les faisons par envie. Ce n'est pas que Dieu ne nous ait pas bénis. Ce n'est pas que nous soyons vraiment dans le besoin. Mais parfois nous le faisons dans le but de satisfaire nos passions, comme a déclaré l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 4 et les versets 2, verset 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Mes frères et sœurs, nous devons apprendre cette leçon. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples des serviteurs qui ont fait de Dieu leur priorité. Et nous nous bornerons ce matin à prendre un seul exemple. De Chroniques 1, versets 7 à 11, nous présente un serviteur intelligent. Le roi Salomon. Dieu apparaît en vision à Salomon et demanda à Salomon de lui produire une demande. Et Salomon de répondre, « Accorde-moi la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de son peuple. » L'Éternel dit, « Puisque c'est là ce que ton cœur demande, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Sur l'heure, séance tenante, la prière de Salomon, la demande de Salomon a été accordée. Dieu ajouta en plus de cela, je te donnerai des richesses, des biens et de la gloire. Si vous faites de la parole de Dieu votre priorité, mes frères et sœurs bien-aimés, vous serez heureux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Enfin, nous devons éviter de nous laisser entraîner dans ce chemin périlleux qu'est l'inquiétude, car c'est très dangereux pour la vie du croyant. C'est une voie à ne pas emprunter parce qu'elle conduit à l'oubli des bienfaits de Dieu. lorsque l'inquiétude entre dans une vie et qu'on l'invite à s'y installer et à s'asseoir, elle enfante certaines maladies, telles diabète, stress, hypertension, cholestérol, etc. De plus, quand l'inquiétude s'installe confortablement, elle produit le découragement. Et le découragement, à son tour, produit l'abandon. Et si le croyant n'est pas bien ancré dans le Seigneur, cet abandon peut conduire à sa chute. Donc, pour cela, comme je vous disais dans mon exposé, et je le répète avant de vous brûler la politesse, ne vous inquiétez de rien. Oui, ne vous inquiétez de rien. Ne vous laissez pas emporter par l'inquiétude, parce que, premièrement, Dieu se penche sur tous les besoins de ses enfants. Ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs, parce que, deuxièmement, je disais, l'inquiétude ne peut rien changer dans nos problèmes. Ne vous inquiétez pas, parce que l'inquiétude rend le chrétien semblable aux païens. Ne vous inquiétez pas, quatrièmement, enfin, parce que Dieu promet qu'il pourvoira aux besoins de celui qui fait de sa parole la priorité de sa vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à ruminer ses paroles et à les observer dans votre vie. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci au pasteur de l'église, mon petit frère, pasteur Sergo Auguste. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs bien-aimés. À bientôt.
Amen.